Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Case des Bulles, où avec Christol Seyck, nous allons continuer à explorer les débuts de la bande dessinée avec aujourd'hui un gros plan sur le journal Spirou. Alors au début, on avait prévu de parler un peu des deux, mais finalement, réflexion faite, on va surtout parler de Spirou. Alors pourquoi? Parce que l'avantage de Spirou, c'est qu'il est créé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le Spirou d'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des bandes dessinées américaines. Donc, c'est une parfaite transition, si j'ose dire, entre ce dont nous parlions la semaine dernière et ce dont on va parler cette semaine. Puisque, donc, dans ce journal de Spirou, qui paraît en 38-39, il y a Red Rider, Superman, Brick Bradford en 1940. Et donc, c'est une. Des bandes dessinées européennes, bien sûr, puisqu'il y a d'emblée Jean Valardi, scénarisé par Jean Doisy, qui sera le rédacteur en chef de Spirou jusqu'en 1955, qui était un résistant, qui était un communiste, et qui était aussi un communiste que, comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire moins stalinien qu'une espèce de laïque épris de vertus chrétiennes. Et donc très attaché à faire des amis de Spirou, un club qu'il avait lancé, une espèce de mouvement de jeunesse, comment dire, rempli de loyauté, d'esprit de sacrifice, d'esprit de travail, etc. Donc quelque chose de tout à fait original et qui plaisait aux Dupuis, famille catholique et famille résistante d'une certaine manière, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, les Dupuis décident de ne pas accepter d'administrateur allemand, le journal ferme d'ailleurs, et ce qui vaudra aux Dupuis des choix éditoriaux à la fois courageux et évidemment a posteriori surprenants, comme par exemple le fait de refuser le personnage de Tintin que leur propose Hergé, et comme Hergé, lui, a eu une position qu'il juge avoir été dommageable pendant l'occupation, il refuse Hergé, compromis avec Le Soir, le journal Le Soir, et ben voilà, l'histoire s'écrit ensuite toute seule, c'est-à-dire que c'est Casterman qui rafle la mise avec les éditions du Lombard, et donc on se retrouve avec, du côté de Spirou, pas de Tintin, mais en revanche, Spirou et Fantasio, donc Spirou qui est créé par Roppwell avant la guerre, Spirou qui veut dire groom, si je ne m'abuse, donc dans l'argot belge. Et nous voici donc avec un journal hebdomadaire rempli de bandes dessinées parfois américaines, mais surtout avec des bandes dessinées qu'on a complètement oubliées, des bandes dessinées qui ont disparu de notre souvenir. Alors certaines, évidemment, dont on se souvient encore, parce qu'on connaît JG. Et donc, JG, c'est la vie de Jésus-Christ, JG, c'est la vie de Surcouf, mais c'est aussi Jerry Spring, bien plus tard. Et donc, c'est d'abord une bande dessinée, un journal de bande dessinée publié par un imprimeur, donc Dupuis, qui tient à faire rouler ses machines et qui a considéré en fait que l'illustré était un bon produit pour vendre. Et donc, pour faire marcher les presses imprimées. Je ne sais pas, Christophe, ce que tu connais, toi, des débuts de Spirou.
Alors, à l'époque, on s'en doute, je n'étais pas né.
Oui, moi non plus. Merci de merci de me permettre de le préciser.
Y a certaines séries qui sont encore très connues, mais elles ont plutôt été publiées après-guerre. Donc, mis à part Spirou, les séries, les bandes dessinées d'avant-guerre sont assez méconnues. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que si on élargit la bande dessinée belge, il n'y avait pas grand-chose avant Hergé et avant Spirou. Les quelques noms qui précédaient, Richard de Querelle et Georges Istat, qui faisaient des planches dans des journaux, souvent satiriques, sont tombés aux oubliettes. Et donc, il faut commencer la BD belge par Tintin et Spirou. Alors, effectivement, je dois avouer que les BD d'avant 45, mis à part Spirou, je les connais sans doute moins que toi, Richard, je dois l'avouer.
Alors, en fait, je n'en connais pratiquement qu'une seule, mais qui est Jean Valardi, et donc avec imaginé par Eddie Pape, mais aussi Charlier, si je ne m'abuse, et JG. Et on a avec Jean Valardi, donc d'ailleurs il n'y a pas Charlier, on a une bande dessinée d'action avec le grand frère en quelque sorte. Voilà, Spirou, Tintin, ce sont des jeunes. Jean Valardi est agent d'assurance, donc c'est un métier sérieux, c'est un métier qui ne fait pas rêver, sauf qu'évidemment il est enquêteur pour les assurances et donc il vit des aventures policières dans une atmosphère vraiment de films d'action des années 30-40 avec grands imperméables, traction avant qui file dans les paysages nuageux et pluvieux et évidemment des aventures nocturnes. Et Jean Valardi va continuer jusqu'à être repris par René Follet. Jigé le commence, Eddy Pape lui succède. Eddy Pape, les gens le connaissent évidemment, c'est Barbe Rouge entre autres. Ou avec un peu de chance, je suis en train de confondre avec Hubinon. Donc voilà, il s'est pris par Eddy Pape, qui lui va s'illustrer avec Luc Orion beaucoup plus tard. Et Jigé reviendra, notamment avec Le Grand Rush, très, très bel album sur les courses automobiles. Et finalement, c'est René Follet qui terminera la série Valardi avec des albums très bien dessinés, des scénarios de Duchâteau moins convaincants. Mais voilà, le miracle de Follet est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que avec Spirou, Rob Veil, donc qui ensuite passera la main à Jigé, puis à Franquin, et Rob Veil passera la main parce qu'il a, il a été, il est fait prisonnier par les Allemands, donc c'est un peu compliqué de dessiner, a le premier utilisé des phylactères, et donc Spirou est, si j'ose dire, en avance par rapport à la bande dessinée de son temps, en tout cas la bande dessinée européenne, c'est lui qui adopte ce système des bulles qui va devenir évidemment la marque de la bande dessinée. Il y a d'autres bandes dessinées intéressantes, là on passe après la guerre, et notamment toujours avec Jigé, c'est la série Blondin et Cirage, où Jigé, qui est à la fois est ce dessinateur réaliste, donc on se souvient de son album sur Don Bosco, il y a eu d'abord une version en noir et blanc, puis ensuite la version en couleur. Ensuite, bien plus tard, ce sera le cowboy Jerry Spring. Il y a surtout Valardi, donc album réaliste. Mais Blondin et Cirage, c'est la veine comique, c'est la veine caricaturale. Et ce sont des aventures tout à fait amusantes. À un moment donné, dans les années 80-90, le journal Spirou avait commencé à rééditer les archives, et donc des héros qui avaient longtemps disparu des rayons des libraires avaient peu à peu ressurgi. Et Blondin et Cirage sont un couple avec un jeune garçon blanc et un jeune garçon noir, donc un couple de héros enfantins à qui il arrive évidemment mille aventures extraordinaires, dont celle de croiser des extraterrestres, comme tout le monde dans la bande dessinée à cette époque-là, et qui sont donc pendant les années 48-55, des albums très amusants, avec d'ailleurs un petit discours antiraciste assez bien vu, c'est-à-dire même à l'époque, qui était certainement courageux et intelligent, et qui aujourd'hui a évidemment un parfum un peu désuet. Je pense que qui ouvrirait aujourd'hui Blondin et Cirage, lecture que je conseille, serait peut-être surpris que je parle de son antiracisme, car évidemment ça charrie un certain nombre de stéréotypes, mais justement c'était l'époque où il n'était pas nécessaire de faire en sorte que chacun soit caractérisé avec uniquement des vices d'un côté et uniquement des vertus de l'autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que Spirou avance avec plusieurs inventions qui permettent et qui sont copiées par la concurrence, comme par exemple les belles histoires de l'oncle Paul, avec là pour le coup vraiment le scénariste Jean-Michel Charlier, qui permettent de raconter en fait des belles histoires qui sont édifiantes. Les Dupuis sont, on l'a dit, une famille d'imprimeurs, une famille catholique, une famille de patrons sociaux, et l'idée est de faire en sorte que les gens, les enfants soient élevés par la bande dessinée et non pas entraînés comme ces affreux comics américains dans l'horreur, l'érotisme, la violence, même si évidemment la violence n'est pas complètement à part de toutes les histoires qu'on raconte. Mais voilà, là, une honnête censure veille, je ne parle pas de la censure française qui dans les années 50 va s'organiser, mais une honnête censure veille pour éviter les images trop effrayantes. et faire en sorte que la bande dessinée franco-belge échappe aux outrances de la bande dessinée américaine. Là, on est passé après-guerre, Christol, donc tu n'es toujours pas né, mais peut-être es-tu plus familier avec certaines des séries qui commencent dans les années 50, 2, 3, 4, 5.
Ouais, et à mes yeux, ce sont dans les années 45-65 qu'on peut décrire l'âge d'or de la BD belge, puisqu'il y a une très grande créativité due sans doute à la concurrence de deux journaux que tout le monde connaît. Le journal Spirou, dont tu as parlé, créé par Jean Dupuis en 1938, puis en 1946 apparaît le journal de Tintin. Créé avec les éditions de Lombard, qui sont créées toutes les deux par l'éditeur Raymond Leblanc. Et donc, ces deux grandes maisons d'édition vont donner leur chance à une grande quantité de dessinateurs belges, mais aussi français, qui vont créer dans ces deux maisons d'édition les grandes séries plutôt pour enfants qu'on connaît encore aujourd'hui. Et les historiens de la bande dessinée s'amusent à déceler dans chacun de ces journaux des caractéristiques spécifiques, notamment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans le journal Spirou, on reconnaît qu'il y a l'école de Marcinelle, puisque le journal Spirou était édité dans un village qui s'appelait Marcinelle. Et donc, c'est un trait qui se trouve plutôt drôlatique, avec par exemple des nez ronds, des bulles rondes. Bon, c'est un peu schématique. Tandis que dans le journal de Tintin, les historiens de la bande dessinée appellent cet art graphique la ligne claire, celle notamment d'Hergé. C'est un peu réducteur à mes yeux. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une concurrence entre ces deux maisons d'édition et ces deux journaux qui vont donner leur chance à une multitude de créateurs. Et ainsi, année après année, on va voir donc Spirou en 1938, puis Blake et Mortimer en 46, Lucky Luke en 47, Achille en 49, Bob Moran en 53, Jerry Spring en 54, La Patrouille des Castors et Gilles Surnat en 56, Gaston Lagaffe en 57, Les Schtroumpfs en 58, Bully Bill en 59, Achille Talon en 63, puis après il y aura Ricochet, Les Tuniques Bleues. On a l'impression que chaque année sort une série humoristique destinée à la jeunesse, qui encore aujourd'hui est très connu, et donc c'était une très grande créativité. Et ce qui est intéressant de noter aussi, je pense, c'est que dans ces années-là, ces deux journaux et les deux maisons d'édition avaient été créés par des éditeurs plutôt d'obédience catholique, plutôt conservatrice quand même. Et donc, le monde de la bande dessinée belge enfin, se développait dans un milieu qui ne pouvait pas nous gêner du tout, Richard et moi, à l'époque. Il y avait un esprit un peu boscoute, peut-être dans la créativité, celui qu'avait connu Hergé, qui persistait jusque dans les années 40-50.
Absolument. C'est le moment de vous rappeler que vous êtes sur Radio Courtoisie et que si vous avez le plaisir de nous écouter et nous le plaisir de vous entretenir, c'est parce que cette association existe par et pour vous grâce à vos dons. Voilà, donc les appels du président Bouclet ont été entendus, donc les dons arrivent, mais malgré tout, il reste encore quelques dizaines de milliers d'euros à obtenir pour traverser sereinement les dernières semaines de l'été. Donc n'hésitez pas, 1 ou 2 euros. Bien sûr, les adeptes des grands gestes sont bien reçus, mais les adeptes des petits gestes le seront tout autant. Et donc à 1 ou 2 euros, soutenir.rc.fr, voilà, c'est le site qui vous permet de nous donner en ligne. Voilà, si jamais vous avez envie de nous donner 1 euro chaque mois, c'est encore mieux. Voilà, parce que donc l'été sont 2 mois compliqués. La rentrée est plus simple, mais elle n'est pas non plus une espèce de vallée verdoyante. Voilà, et donc d'une manière générale, d'une année à l'autre, chaque mois a son lot de surprises désagréables. Donc soutenir.rc.fr. Ou sinon, envoyez-nous un chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, Paris 75 016. Voilà. On avait parlé de bandes dessinées oubliées, on a parlé de Jean-Michel Charlier et de ses belles histoires d'Oncle Paul. Il y a par exemple Kim Deville, qui est créé en 1953 par Gérald Forton. Alors Gérald Forton, il est de la même famille que Louis Forton. On vous en parlait il y a deux épisodes, si je ne m'abuse, quand on a évoqué les Péniclés. Et voilà, Gérald Forton a une carrière sans grand intérêt, c'est-à-dire il a énormément dessiné, beaucoup de choses, des héros qui ne sont pas marqués. Et Kim Deville, c'est vraiment la manière dont Charlier décline son concept de héros aventurier sur tous les continents. Donc voilà, c'est pas Tiger Joe, parce que Tiger Joe, lui, est en Afrique. Et donc Kim Deville, lui, va sévir en Amérique du Sud. En Amazonie, et ça permet à Charlier d'avoir évidemment quasiment les mêmes aventures. Donc, Charlier, c'est aussi celui qui va inventer plus tard Bug Dany, c'est aussi celui qui invente Tanguy et la Verdure. Et donc, c'est à chaque fois, une fois qu'il décide d'avoir un univers, on a l'impression qu'il recycle dans ses bandes dessinées avec beaucoup de métiers, mais malgré tout, un côté intertextuel assez marqué, toutes les aventures des romans d'aventure du 19e et du début du 20e siècle. Et donc, Kim Deville est un héros sans peur et sans reproche qui, avec son collaborateur indigène, Ayo Matuk, va évidemment connaître 1000 aventures. Kim Deville a rarement été réédité. Alors, c'est le moment d'ailleurs peut-être de vous parler de ces éditeurs de bandes dessinées comme Le Coffre à BD ou d'un site internet comme BD Oublié. Voilà. Et si vous avez des souvenirs d'enfance, au cas où ceux qui nous écoutent sont de mon âge ou un peu plus vieux et que vous avez l'impression que les librairies ne vous permettent pas de retrouver tout ce que vous aimiez lire après l'avoir acheté chez le marchand de journaux ou chez vos grands-parents, eh bien, le coffre à BD, BD Oublié, Topinambour, Taupinambour, et d'autres encore, ont pris l'habitude de rééditer en intégrale, plus ou moins bien faites, mais souvent de très bonne qualité, des bandes dessinées que les éditeurs des illustrés où ils paraissaient n'ont jamais repris. Et donc, avec évidemment le souci permanent de rééditer les intégrales. Donc voilà, Kim Deville, avec un peu de chance, doit exister chez BD Oublié. Ça fait partie de ces bandes dessinées qui ont disparu du catalogue de Dupuis et qui, si je ne m'abuse, n'ont jamais été rééditées par Dupuis. Kim Deville, c'est un aventurier parce que évidemment il y a toutes ces séries humoristiques dont parlait Christol, mais il y a aussi toutes ces séries avec des personnages adultes qui permettent d'explorer eh bien, le monde de l'aviation, le monde de la course automobile, le monde du spectacle et d'une manière générale tous les univers professionnels un peu excitants et un peu plus excitants que l'assurance, que les assureurs me pardonnent, puisque même Valardi, en tant qu'enquêteur auprès des agences d'assurance, a une vie bien plus palpitante qu'un actuaire.
Et si on traite de la BD belge, il faut quand même dire un petit mot aussi sur la bande dessinée flamande. Alors, chez les Flamands, il y a aussi un foisonnement de bandes dessinées, mais il faut savoir que celles-ci sont plutôt destinées au public flamand, puisque ce sont des histoires de petits villages, de villes flamandes ou de personnages historiques flamands. Et donc, ça a difficilement été exporté en France. Il faut savoir que de grands dessinateurs sont flamands, il y a Maurice, William Vance, Griffo, et dans la création de la BD belge, il y a notamment Bob de Moor, collaborateur d'Alger, qui était d'origine flamande et qui est connu pour des séries comme Coril Moussaillon et d'autres encore. Et c'est étonnant de voir que là-bas, il y avait un grand succès de la BD à travers les journaux qui faisaient paraître des planches, à travers des revues, que celles-ci ont été lues par les Belges francophone, mais que ça s'est peu exporté quand même dans le reste du monde. Alors que la BD belge francophone, plutôt universelle, qui était peu enracinée dans la Belgique francophone, ont pu s'exporter beaucoup plus aisément. C'est une caractéristique assez particulière et on voit quand même que la Belgique, on a beau le dire, malgré la monarchie, est quand même divisée entre deux régions et ça se voit même dans l'histoire de la bande dessinée. C'est assez amusant de le remarquer, ouais.
Alors, j'ajouterais par rapport aux distinctions que tu as opérées tout à l'heure, qu'il y a aussi deux autres manières de caractériser l'école de Marcinelle, autrement dit Spirou, et les gens de Bruxelles du Lombard Tintin. C'est que chez Tintin, ils sont dépressifs, et chez Spirou, ils sont portés sur la bouteille. Voilà. Donc, il y a un nombre. Voilà. Donc, on peut départager aussi de cette manière-là les deux rédactions. Si nous revenons aussi sur cet âge d'or de la bande dessinée, c'est que bien sûr, il y a une volonté aujourd'hui de retrouver cet âge d'or. Alors, par exemple, avec les grands albums publiés par Le Lombard qui reviennent sur l'histoire du journal Tintin, c'est des trucs épais comme des bottins téléphoniques à l'époque où il y en avait et qui sont absolument passionnants avec tout un tas d'extraits de bandes dessinées très rarement reprises en album ou des inédits en album. Et mais il y a aussi, par exemple, chez Dupuis, Les Amis de Spirou, une bande dessinée qui comprend déjà deux tomes, avec l'inévitable Jean-David Morvan qui s'est fait une spécialité des scénarios sur la Seconde Guerre mondiale, avec donc ces enfants qui sont à la limite de la résistance et donc qui racontent véritablement d'ailleurs quelque chose que les amis de Spirou ont pu vivre pendant la Deuxième Guerre. Il y a plusieurs albums donc sur les amis de Spirou. Il y a un autre album qui était consacré au petit théâtre de Spirou, qui était le théâtre qui a été fondé par Jean Doisy et les Dupuis au moment où le journal a été obligé de cesser de paraître. Mais on peut aussi parler d'un album qui est paru en 2012, si je n'abuse, de Schwartz et Yann, Gringos Locos, et qui raconte la manière dont, en 1948, si je ne m'abuse, Jigé, Maurice, Franquin partent pour les États-Unis, Jigé étant persuadé que les Rouges vont déclencher la guerre. Et donc, il se réfugie aux États-Unis, et c'est là que Jigé, donc le maître de Blondin et Cirage, le maître de Spirou et de Valardi, va continuer à envoyer une tonne de dessins, exactement comme Franquin plus tard le fera pour les mêmes éditions, pour Dupuis, tout en formant les petits jeunes, donc que sont Franquin, Eddie Pape et Maurice, donc Lucky Luke, Spirou et Fantasio et Luc Orion, dont on voit qu'il a plutôt bien formé les gens qui étaient sous son aile. Voilà, Gringos Locos, c'est encore disponible chez les éditions Dupuis. Alors j'ai appris en préparant cette émission qu'il y avait un second tome qui était prévu, qui s'appelait Crazy Belgian, sur Goscinny et là aussi les aventures de Goscinny aux États-Unis, mais les ayants droit de Franquin et Jigé ayant fait un petit caca nerveux au moment de l'apparition de Gringos Locos et même avant que ça ne paraisse. Donc, le Crazy Belgian restera une bande dessinée dans les limbes des cartons de Yann avant que quelqu'un un jour se décide à tenter le coup. On est allé très rapidement. Parmi les BD oubliés, il y a la série des Timours. Je ne sais pas si tu les as lus, Christol.
Oui, alors c'est amusant. Tu me rappelles un nom que j'avais oublié, puis après une vingtaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attiré parmi les genres de la bande dessinée par la bande dessinée historique. Et alors, chez Timour, c'est amusant parce qu'on voit ce personnage-là dans différentes histoires à toutes les époques de l'humanité. Ça doit commencer par Timour Cro-Magnon, puis après il y a Timour Croisé, Timour Chevalier, Timour, voilà. J'ai dû en lire 3-4, mais je pense qu'il y en a une vingtaine qui ont dû paraître. Quand on la lit, on retrouve vraiment les BD. Alors, je pense qu'elle a dû paraître au début des années 50, peut-être, je pourrais pas te dire hein, comme ça, la date de parution, mais on retrouve vraiment l'esprit des vieilles BD, des éditions Tintin ou Spirou. Alors, qui était l'éditeur déjà? Qui était le dessinateur de Timour déjà?
C'était Sirius, voilà,
Oui, je
et
me
donc
souviens de son
qui
nom sur la
avait,
figure, sur la couverture. Oui. Alors, si tu me
bah,
poses
et
la
donc,
question.
non, vas-y, excuse-moi.
Non, oui, c'était Sirius. C'était chez Spirou, c'est ça, il me semble. Et
Ça
donc, je reviens.
paraissait dans Spirou, voilà. Et
Ouais.
donc c'était effectivement l'histoire d'une famille depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours. Donc le concept est assez amusant. Et donc la longue succession des Timours permet de franchir les millénaires et les siècles avec les grandes étapes. Et donc cette espèce de bande dessinée familiale est assez extraordinaire. Sirius avait lancé avant Timour une autre bande dessinée qui s'appelait L'épervier bleu, qui était une série
La
comment
science-fiction.
dire, de science-fiction et aussi d'aventure. Avec, il avait un Eric, donc dit l'épervier bleu, un compagnon qui s'appelle Larsen, rejoint par le jeune Sheba, donc un jeune indien. Et donc on a l'impression que c'est Bob Moran et Bill Ballantyne avant l'heure. Et donc c'est publié à partir de 42, donc dans Spirou, et jusqu'à ce que la censure française, donc qui a fait des misères à l'auteur de Black et Mortimer, fasse aussi des misères à Sirius, en expliquant que puisqu'ils ont décidé d'envoyer sur la Lune d'une manière grotesque Bill, Eric et le jeune Sheba pour trouver une lune pleine de champignons, tout ça n'est pas très sérieux. Et donc en 53, la censure interdit l'apparition de l'histoire en France. Donc Sirius est dégoûté, et c'est en 53, assez amusant, que Hergé, lui, va publier Objectif Lune. Voilà. On est arrivé presque à la fin. Il nous reste des 10 secondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas ce dont on va vous parler la semaine prochaine, mais évidemment de bande dessinée des années 60-70, au moment où il y a une mutation et où la bande dessinée adulte débarque dans l'univers de la bande dessinée franco-belge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci
Merci
à
Richard.
Christol, et à la semaine prochaine.